Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de
tout ici, Jean-Baptiste,
qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Nous lirons dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 14. Il y a beaucoup de choses dans ce chapitre. Il n'y a qu'une petite partie qui nous intéresse particulièrement, mais dans tous ces versets, j'aimerais les lire quand même. La parole de Dieu est merveilleuse. Elle est riche. Soyons donc les imitateurs de Dieu. Comment est-ce qu'on peut imiter Dieu? Voilà la question qui se pose. L'apôtre écrit, soyons donc les imitateurs de Dieu. Mais Dieu est esprit. Comment puis-je l'imiter? Moi qui suis chair. Comment puis-je imiter? Il continue et dit, comme des enfants bien-aimés, et marcher dans l'amour, de même que Christ nous a aimés. Amen. Des imitateurs de Dieu en Christ. Voilà ce qu'il veut nous dire. Des imitateurs de Dieu en Christ, Dieu, nous ne pouvions le comprendre. Mais dans sa grâce, il s'est fait homme. Il est devenu homme dans la personne de Jésus. Et nous avons vu Dieu à notre mesure. Mais quelle mesure? Une mesure d'amour, car Dieu est amour. Oui, c'est toujours le thème qui nous intéresse depuis plusieurs semaines, l'amour. Un thème que nous ne pouvons certainement pas épuiser. À mesure que nous allons de l'avant, il y a encore d'autres choses qui se révèlent à notre esprit. Et j'aimerais vous parler particulièrement aujourd'hui, amour ou égoïsme. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Comment pouvons-nous être ses enfants, si ce n'est par la nouvelle naissance? Nous devenons ses enfants. Alors, étant ses enfants, nous devons l'imiter Dieu. Comment? En Christ, par Christ. Et marcher dans l'amour, toujours l'amour, car là est le point culminant de la vie chrétienne, le centre même de toute vie chrétienne, stable, équilibrée. Vraie, profonde. Marcher dans l'amour, de même que Christ nous a aimés et s'est livré à Dieu pour nous, en se sacrifiant comme un parfum de bonne odeur. Il nous a révélé ce que c'est que l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit même pas mentionné parmi vous, comme il convient à des saints. L'inconduite, toute forme d'impureté, la cupidité, tout ça c'est le contraire de l'amour. Ce sont les œuvres de la chair, et les œuvres de la chair sont les œuvres qui sortent de l'égoïsme de l'être humain. Un cupide, il est égoïste. L'impureté, sous toutes ses formes, est une manifestation de l'égoïste qui veut satisfaire ses passions charnelles. L'égoïsme et l'amour sont opposés entre eux. Et que ces choses ne soient même pas mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints, c'est-à-dire à des hommes et des femmes qui sont mis à part. Et il continue et il dit, pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, de plaisanterie malsaine. Cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Là, nous touchons encore un autre point qu'on a touché dimanche dernier, sur la langue. La langue. Si nous vivons dans l'amour, nous sommes maîtres de notre langue. Qui veille sur sa langue préserve sa vie. Nous l'avons vu, comme nous dit les Proverbes 21-23. Qui veille sur sa langue préserve sa vie. Et là, ce sont les œuvres de ceux qui vivent dans l'égoïsme et dans la chair. C'est la grossièreté, c'est c'est les propos insensés. Ce sont les plaisanteries à double sens, les bouffonneries qui deviennent même scandaleuses. Cela est malséant. Pourquoi? Parce que vous marchez dans l'amour. Vous êtes des enfants de la lumière. Et vous êtes à l'image de votre Père. Vous êtes saints, mis à part pour lui. Car sachez-le bien, aucun débauché, aucun impur, aucun cupide, oh la cupidité, c'est quelque chose qui domine notre monde d'aujourd'hui. La cupidité n'est rien d'autre que la manifestation de l'égoïsme. Cupide, la cupidité c'est de l'idolâtrie. Que ces choses-là n'aient, ces choses-là n'ont pas d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Ceux qui commettent ces choses-là n'ont pas d'héritage. Ils sont privés de tout héritage. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Encore la langue. On en a parlé dimanche dernier, largement. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Que de poisons sont jetés par la langue, par les paroles inconsidérées, par les paroles folles, par la critique destructive. Il y a la critique constructive. Mais, cet homme-là n'a qu'une critique destructive, des paroles méchantes vis-à-vis de son prochain, des calomnies de tout genre et de la médisance. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Voilà pourquoi le jour de la colère s'approche. C'est à cause de ce qui sort de cette bouche. C'est à cause de ces actions qui sortent de cet homme. Cet homme qui est égoïste. N'ayez donc aucune part avec eux, dit l'apôtre autrefois. En effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, souvenez-vous, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voilà encore l'amour, la bonté, l'amour, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez, méditez, cherchez ce qui est agréable au Seigneur. Pour le faire, bien sûr. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Dénoncez les œuvres des ténèbres. Parlez contre les œuvres des ténèbres. Prêchez contre les œuvres des ténèbres. Dénoncez-les publiquement. Où que ce soit. Soyez lumière, et la lumière chasse les ténèbres. Dénoncez les œuvres des ténèbres. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Vous entendez? Il est honteux même d'en parler. Pourquoi te délectes-tu à raconter les sottises et les choses mauvaises et impures que fait celui-ci ou celle-là? Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Car il est lumière, et il resplendira sur toi. Voilà un passage de l'Écriture qui est bien significatif, et qui souligne ce que nous avons déjà dit sur l'amour tous ces dimanches derniers, sur le pardon, ainsi que sur la maîtrise que nous devons avoir sur notre langue. Dieu veut nous donner une vie supérieure, une vie de qualité. Et cette vie de qualité, nous pouvons la voir, frères, sœurs. Le passé, nous ne pouvons pas le changer, mais le futur, nous pouvons l'influencer. N'oublions pas cela, car ce futur dépend de nous. Ce futur dépend de notre façon de marcher avec Dieu. Ce futur dépend de notre attitude. Ce futur dépend de notre marche et de notre obéissance. La vie peut être préservée, sa durée peut être allongée, cette vie peut être de qualité, peut être une vie de paix, de bonheur, malgré le désordre, malgré la guerre, malgré ce qui se passe autour de nous. Notre vie à nous peut être une vie merveilleuse parce que passée avec Jésus est prolongée parce qu'il nous utilisera pour apporter sa lumière. Ou alors cette vie peut être empoisonnée, elle peut être écourtée, elle peut être mauvaise à cause de nos actions et de nos paroles empoisonnées et de notre attitude mauvaise. Ce sont des choses trop sérieuses pour être négligées. Sachons que l'amour divin est différent de l'amour humain. Une grande différence entre l'amour divin et l'amour humain. Et quand nous parlons de l'amour, qui doit être la dynamique de notre foi, il s'agit de cet amour divin répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme nous dit Romains 5, 5. Cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour divin, non seulement pardonne, mais il n'est pas égoïste. Il n'est pas égoïste. Ce qui caractérise l'amour de l'homme, c'est que c'est un amour égoïste. L'amour de Dieu pense aux autres en premier, alors que l'amour humain pense à lui-même d'abord. Il est égoïste et replié sur lui-même, égocentrique. L'amour humain se place en premier, moi d'abord. L'amour humain se recherche lui-même. Il pense à lui-même. Il cherche son intérêt. Il cherche son avantage. Car pour lui, la personne qu'il aime le plus, c'est moi. C'est je. On aime quelque chose. On aime quelqu'un au niveau humain pour le plaisir, pour la joie, pour la satisfaction qu'il procure. Il est impossible pour l'homme naturel, l'homme adamique, de comprendre l'amour de Dieu. Il est impossible pour lui d'aimer de la sorte, c'est-à-dire un amour désintéressé, un amour vrai, un amour durable, un amour stable. Pourquoi? Parce que cet amour vrai, cet amour durable, cet amour stable, cet amour pur, cet amour-là, il est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais il n'est pas déversé dans le cœur de tout le monde. Il est déversé dans le cœur de ses enfants. Et comment devenons-nous ses enfants, si ce n'est que par la nouvelle naissance? À ce moment-là, nous devenons ses enfants. Et quand nous devenons ses enfants, il déverse son amour en abondance dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lisez Romains 5, 5. Aimer, le mot aimer dans notre langue, c'est un mot usé. Usé, râpé, usé jusqu'à la corde, plein de trous, même plus plaisant. Qui souvent ne veut pas dire grand-chose. Souvent, ce mot amour, ce mot aimer, ne veut plus dire grand-chose dans le monde d'aujourd'hui. On aime son chien, c'est pas vrai? On aime son chien. Pourquoi? À cause du plaisir qu'il nous donne. Il est beau, et quand j'arrive à la maison, le voilà qui vient devant moi avec sa queue qui bouge comme ça, et il s'assoit pour me regarder. Et je lui dis, tu es un bon petit toutou. Parce qu'il est un bon gardien, et il aboie, il me protège. Il me rapporte quelque chose, une satisfaction personnelle, alors je l'aime. On aime la maison qu'on habite. Pourquoi? Eh bien parce que elle est bien placée, elle est confortable, on a une belle vue, elle est vraiment bien entourée d'un jardin, elle est agréable. Alors, nous l'aimons, pourquoi? Eh bien parce qu'elle nous procure quelque chose, voilà pourquoi. Toujours centrée sur nous-mêmes. Elle est agréable, elle est confortable, elle est spacieuse, elle est bien meublée. Il y a toutes les accommodations possibles. Alors, nous l'aimons à cause de ce qu'elle nous procure. On aime sa voiture. Une bonne voiture du dernier modèle. Et puis, qu'est-ce qu'elle tire? Elle est pleine de chevaux sous le capot. Et puis, elle est confortable en plus. Transmission automatique. Facile à conduire, air conditionné. Moi, j'aime bien ma voiture, en tout cas. Elle me conduit dans les endroits les plus éloignés, confortablement, sans problème. J'aime ma voiture à cause de ce que je peux tirer d'elle. Il y a un avantage à avoir une telle voiture. Je l'aime. C'est toujours un amour égoïste. Maintenant, nous aimons notre pays, pas vrai? Nous aimons notre pays. Bien sûr, pourquoi? Parce que dans notre pays, c'est notre environnement, ce sont les gens que nous connaissons, nous sommes plus ou moins de la même souche au point de vue tribal, au point de vue racial, et puis voilà, nous pouvons communiquer les uns avec les autres, et puis voilà, et puis c'est un pays qui a tout, il pleut bien, il y a beaucoup de, la végétation pousse facilement et il nous rapporte, bon, d'accord, il y en a d'autres, non, qui fuient le pays aujourd'hui. Ils s'en vont ailleurs, pourquoi? Eh bien, parce que leur amour n'est pas tellement grand pour leur pays. Ce qu'ils aiment, c'est eux-mêmes d'abord. Là-bas, de l'autre côté, si je passe la frontière, je vais gagner plus d'argent, je vais rouler sur des meilleures routes, j'aurai plus de possibilités pour mon avenir, je pourrai avoir des bonnes écoles pour étudier. Donc, l'amour du pays passe désormais au deuxième plan. C'est pas vrai pour beaucoup de gens. Alors, on s'en va en Afrique du Sud, on s'en va en Amérique, ou on s'en va en Europe, quelque part. Là-bas, eh bien, on espère avoir une meilleure vie. Et pour beaucoup, ils ne peuvent plus avoir une meilleure vie, parce qu'il y a le chômage là-bas aussi. Et puis, il y en a beaucoup qui sont dans des camps, tout simplement parce que ce sont des irréguliers. Ils sont rentrés sans papier régulièrement. Et les voilà mis à l'écart à cause de cela, et ils se plaignent. Quoi donc dans vos pays? Tu as tout le potentiel ici. Pourquoi veux-tu chercher ailleurs? Eh bien, parce que tu ne penses qu'à ton propre ventre, c'est tout. Tu ne penses qu'à ton propre bien-être personnel. Tu ne penses qu'à l'argent que tu peux avoir. Tu ne penses qu'à une position que tu voudrais avoir. Tu voudrais revenir au pays comme un gros boina avec plein d'argent dans les poches et une grosse voiture pour montrer aux autres que, voilà. Quel drôle d'amour que tout cela. Quel drôle d'amour. Il y en a qui aiment leur travail. Oh, je sais, bon, on pourrait faire une longue liste. Mais l'amour humain, c'est quelque chose de très bizarre. L'amour humain est avant tout égoïste et égocentrique. Beaucoup aiment une femme à cause de la jeunesse. Elle est belle, disent-ils. Ils l'aiment à cause de sa beauté. Sa beauté fait plaisir à voir. Oh, ses yeux! Oh, ses dents! Oh, cette peau! Du reste, elle s'arrange tellement bien pour ajouter à sa beauté. C'est vrai! Mais cette beauté passe! Elle va durer quelques années et bientôt les rides vont se creuser dans le visage. Les yeux ne seront plus autant brillants. Le corps s'alourdira et deviendra lourd. À ce moment-là, tu l'aimes plus. Tu l'aimes plus. Oh, tu n'es pas la femme de ma jeunesse. Tu n'es pas la femme de mon cœur. Et il se trouve une femme quelque part ailleurs. Voilà l'amour des hommes. Voilà l'amour du monde. L'égoïsme. Frères, sœurs, quand l'amour de Christ est répandu dans nos cœurs, c'est un amour à une autre dimension. Frères, sœurs, si l'amour repose que sur une beauté physique, il est bien éphémère. Si l'amour repose sur une silhouette, cet amour est bien éphémère. Si l'amour repose sur un compte en banque, il est bien éphémère. Mais voilà pourquoi il y a tant de larmes et de peine et de destruction dans les foyers, et dans les maisons, et dans les ménages. Parce que l'amour de l'homme est égoïste. Ce que je peux retirer, ce que je peux avoir pour moi-même, le bénéfice que je peux en ressortir, quelque chose pour me satisfaire, satisfaire ma chair, satisfaire mes ambitions, me satisfaire moi. Voilà l'amour des hommes. Frères, sœurs, il vous faut naître de nouveau. Et quand vous serez né de nouveau, l'amour de Dieu sera répandu dans vos cœurs. Et celle qui est votre compagne, et celui qui est votre compagnon, malgré les années, malgré les rides, malgré la silhouette qui n'est plus si harmonieuse qu'autrefois, malgré ces choses-là, cet amour sera encore plus profond, cet amour sera encore plus vrai, car c'est un amour merveilleux. Alléluia. Vous voulez le bonheur dans vos foyers, vous, vieux couple. Vous voulez un amour renouvelé, vieux couple. Eh bien, trouvez cela en Jésus-Christ. Et il vous donnera un amour d'une autre dimension, un amour combien plus merveilleux. Oui, ce ne sera pas un amour qui a comme appui une apparence extérieure, mais ce sera un amour que vous saurez discerner à cause de la beauté de Christ qui est à l'intérieur de ce cœur. C'est ainsi que tu aimeras ta femme, c'est ainsi que tu aimeras ton mari, à cause de cet amour combien merveilleux qui est caché là. Et que tu sauras voir, parce qu'il y aura une nouvelle communication entre toi et ta femme et toi. Pour beaucoup, ils aiment une femme à cause de sa jeunesse, de sa beauté, à cause du plaisir à la voir, à cause de son intelligence, à cause de ce qu'on peut en retirer, toujours pour moi, pour ma chair, pour mes sens, pour me satisfaire. Mais il y en a de celles qui aiment un homme, non pas parce qu'il est beau, oh non, mais à cause de son argent. Il a un bon compte en banque quelque part, et puis il roule dans de grosses voitures. Il possède de grands biens et des maisons. Il a une position sociale, les avantages qu'on peut en retirer. Quel est cet amour que tu prétends avoir pour ce bonhomme-là? Quel est cet amour qui te fait diviser un foyer alors que cet homme a sa femme et qu'il a ses enfants? Mais tu viens et tu lui tombes dans les bras et tu fais ton possible pour l'avoir tout simplement parce que ce que tu aimes, c'est son argent pour toi. Quel est cet amour dont tu parles? Non, non, ce mot n'est pas digne dans ta bouche. Tu n'es pas digne de le prononcer. C'est simplement l'expression de l'égoïsme le plus abject. Briser le cœur d'une femme légitime, briser le cœur d'un enfant ou de plusieurs enfants qui sont chassés de la maison pour que toi tu prennes la place et tu intrigues pour avoir la première place. Repends-toi! Tes motivations sont des motivations égoïstes et égocentriques. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour humain, c'est un amour égoïste. L'amour humain n'est pas à la hauteur de cette nouvelle création que Dieu est venu acquérir par son sang. On aime quelque chose ou quelqu'un à cause de la joie qu'il procure. On aime quelque chose ou quelqu'un à cause du plaisir qu'on peut en retirer. De ce qu'on peut en retirer pour soi-même, pour son intérêt, pour son propre ventre, pour la satisfaction de sa chair. L'amour humain n'est pas désintéressé, il est intéressé. On parle même, entre guillemets, de faire l'amour, comme si l'amour se faisait. Quelle aberration de langage! C'est même une insulte! C'est même un blasphème! L'amour ne se fait pas. L'amour, il se démontre. Il se démontre comment? Il se démontre par le désintéressement. Voilà comment. Il se démontre par la recherche du bonheur, par la recherche du bien-être de l'autre, en s'oubliant soi-même. Vous m'entendez? Il y en a qui cherchent le bonheur de l'autre parce qu'il sait qu'en cherchant son bonheur, il va trouver son intérêt. Ça, ce n'est pas l'amour! Frères, sœurs, revenons aux vraies dimensions. Soyez renouvelés dans votre intelligence, nous dit l'apôtre. Que de foyers brisés dans notre monde, parce que ils n'ont jamais connu l'amour. De foyers brisés parce que l'amour est inconnu au milieu d'eux. Ils ne savent pas ce que c'est. Pourtant, ils sont venus ensemble. Il a dit à sa fiancée, je t'aime et je t'aimerai toute ma vie. Elle a dit à son fiancé, je t'aime et je ne peux pas vivre sans toi. Mais ce temps était très court. Pourquoi? Eh bien, parce que voilà. Ça ne répondait pas à toutes les aspirations charnelles de l'individu. Que de foyers brisés, d'enfants laissés pour compte, que d'hommes qui ont eu je ne sais pas combien de femmes, et de femmes qui ont eu je ne sais pas combien d'hommes, et c'est chaque fois la promesse, je t'aime, et je t'aime pour toujours. Cesse de mentir! Tant que tu n'as pas trouvé la vraie dimension de l'amour, qui est en Dieu seul, tu n'as rien compris à l'amour. Rien. Tu blasphèmes que de foyers brisés dans le monde parce qu'ils n'ont jamais connu l'amour. Pour connaître l'amour, d'abord, il faut connaître Dieu. Tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas l'amour. Tu ne fais que de répondre à tes instincts que tu veux calmer, que tu veux apaiser. Et pour les apaiser, il faut que tu aies quelque chose pour toi. Et là, tu n'auras jamais, jamais le bonheur. Car ces choses passent, elles passent. Tu seras toujours en quête d'un autre amour. Tu seras toujours en quête d'un autre amour qui n'est pas l'amour, qui n'est que l'égoïsme. Ce qui caractérise l'amour humain, c'est l'égoïsme. Et l'égoïsme est le plus grand ennemi de l'amour. Dès l'instant où l'égoïsme rentre dans un foyer, vous voyez la ruine du foyer. L'égoïsme, c'est la désolation des foyers, la désolation des couples, l'égoïsme. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, il y a des paroles pour nous. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. C'est ainsi qu'il commence. Car les hommes seront égoïstes. Ça, c'est le titre de la liste. C'est la tête de liste que l'apôtre fait. Autrement dit, l'égoïsme. L'égoïsme avec ses composants. Qu'est-ce que c'est? Lisons. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Celui qui est ami de l'argent devient égoïste. Il n'a pas d'amour. Ami de l'argent, fanfaron, orgueilleux, enorgueilleux, il n'a pas d'amour. Il veut se montrer, lui, c'est tout. C'est lui qui sait tout, c'est lui qui connaît tout. C'est parce qu'il veut attirer les yeux sur lui. Il n'y a que lui qui est là, il est le centre du monde. L'orgueilleux, c'est un égoïste, il n'a pas d'amour. Blasphémateur, rebelle à leurs parents. Ingrat, sacrilège, insensible, implacable, tout ça, nous le voyons, ça sort de l'égoïsme. Quelqu'un qui a de l'amour, il n'est pas insensible. Il n'est pas implacable, il est patient, il écoute, il ne cherche pas à forcer ses pensées, son chemin à lui. Calomniateur. Oh, là j'ai quelque chose à vous dire. C'est toujours la langue, hein. Calomnier, calomnier. Et puis, vous savez que calomniateur en français vient d'un mot grec qui a donné le mot diable. Ah, le mot diable a la même racine que calomniateur. Prenez une leçon. Nous tous, sans frein, cruel, ennemi des gens de bien, traître, impulsif, enflé d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu, ils garderont la forme extérieure de la piété. Oui, il peut très bien chanter des cantiques, il peut très bien prier, il peut très bien même peut-être parler en langue et prophétiser, qui sait. Mais dès l'instant où l'égoïsme est là, il y a tous ces composés qui sont avec, n'oubliez pas. Alors, ces gens-là gardent la forme de la piété extérieure. Ils prient, ils chantent, ils vont à la forme de la piété. Mais sortis, à peine sortis, ils font ça, eux, moi, mon ventre, mon intérêt, mes affaires. Ils deviennent implacables, ils deviennent orgueilleux, ils deviennent vantards, ils deviennent calomniateurs, ils deviennent cruels, ils deviennent des gens de bien qui cherchent à les redresser, ils se dressent contre eux. Ils deviennent jaloux, ils deviennent toutes sortes de choses. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. Voilà ce que dit l'apôtre. Dieu est amour. Il est amour avant d'être puissant. Dieu est amour avant d'être l'éternel des armées. Dieu est amour avant d'être le juge. Dieu est amour avant d'être le Dieu de colère. Car même lorsque sa colère et son jugement se manifestent, cet homme qui est là, qui le jugement, qui perd, qui crie, oh Dieu, pardon, sauve-moi, il le sauve alors. Car il y a toujours espoir avec mon Dieu. Frères et sœurs, ne méprisez pas la grâce. Dieu est amour, même dans ses colères, même dans ses jugements. Il est d'abord amour avant tout. Il n'y a pas d'amour dans le monde entier qui soit semblable à l'amour de Dieu. Cet amour, il veut le faire habiter en nous. Il veut le faire habiter dans ses enfants. Cet amour, dans ses enfants qui sont nés de nouveau, il déversera en eux son amour. Il le déversera par le Saint-Esprit. Oh, j'aime cette parole. Nous devons apprendre à laisser cet amour divin nous dominer, nous contrôler. Alors, nous marcherons dans l'amour. Et cette marche dans l'amour, c'est la marche par l'Esprit. Il y a un lien très étroit entre la marche dans l'amour et la marche par l'Esprit. Si l'amour est répandu dans nos corps par le Saint-Esprit, alors notre marche dans l'amour sera une marche par l'Esprit. S'il vous plaît, je suis fatigué d'attendre ces gens qui me disent « J'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit. » Et ils n'ont pas d'amour. Alors, quel est l'Esprit qu'ils ont reçu? C'est certainement pas le Saint-Esprit. Je suis fatigué d'entendre ces gens qui prétendent qu'ils ont des dons de toutes sortes, des dons inimaginables, de ressusciter les morts, de parler en d'autres langues, de prophétiser, d'avoir des révélations. Non, ils ne savent manifester l'amour envers leurs prochains. C'est certainement pas par l'Esprit de Dieu qu'ils font cela. Car l'Esprit de Dieu est un esprit d'amour.
le premier don, la première chose, le premier prix que nous devons représenter, si nous sommes sauvés, c'est l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain, l'amour dans nos relations avec les autres. Et quand nous parlons d'amour, nous ne parlons pas de lâcheté non plus. Nous ne parlons pas de laisser faire non plus. Nous parlons de discipline. Nous parlons d'obéissance. Nous parlons de soumission. Il y a des gens qui pensent que quand on parle d'amour, il faut tout laisser courir et laisser faire sous prétexte d'amour. Non! L'amour! L'amour! Il reprend. L'amour, il corrige. L'amour, il exige la discipline. L'amour, il exige la soumission. Ça, c'est l'amour de mon Dieu, parce qu'il exige tout cela de moi aussi. Il y a un lien étroit entre l'amour et l'esprit. Dans Romains 15, 30, il y a un verset merveilleux. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'esprit à combattre avec moi. Amen. C'est pas quelque chose que je raconte par hasard, c'est là. L'amour de l'esprit. Celui qui marche dans l'amour, il marche par l'esprit. Il y a une identité parfaite entre l'amour et l'esprit. Nous, pentecôtistes, nous vantons d'avoir reçu peut-être plus que les autres parce que nous croyons au baptême du Saint-Esprit et aux dons spirituels et nous nous vantons. Mais où est l'amour? Si nous ne manifestons pas l'amour, nous n'avons rien de plus. Et au contraire, nous avons beaucoup moins que cet autre qui ne parle pas comme nous, mais qui manifeste l'amour. L'amour de l'esprit. Celui qui marche par l'esprit marche dans l'amour et par l'amour. Dans Galates, au chapitre 5, et au verset 30, et au verset 16, il est dit ceci. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ah! Encore! L'amour et l'esprit sont ensemble. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est l'égoïsme, n'est-ce pas? Me satisfaire moi-même, à satisfaire mes désirs animaux, mes désirs charnels, mes désirs de ma volonté propre, mes désirs purement humains. Ça, c'est l'égoïsme. Donc, dans ce cœur, il n'y a pas d'amour. C'est pour cela marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car si vous marchez selon l'esprit, vous marchez dans l'amour. Et parce que vous marchez dans l'amour, vous faites les désirs de l'esprit et non pas les désirs de la chair. L'amour, selon l'homme, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Quand j'entends ces hommes qui ont 3 femmes, 4 femmes, 2 concubines, ici et là, et qui à chacune de ces femmes disent « je t'aime », c'est pas vrai. Il devrait dire, en venant vers elle, « je m'aime, si tu savais comme je m'aime. » Sophie, ces femmes qui ont un homme ici, un autre homme là, infidèle à leur mari, elles devraient dire avec passion, « je m'aime, si tu savais comme je m'aime. » Ça, c'est la manifestation de l'égoïsme le plus abject, l'égoïsme. C'est accomplir tous les désirs de la chair, voilà ce que c'est, de ma chair. C'est les désirs de ma chair. En ne pensant qu'à soi-même et à sa propre satisfaction. Continuons la lecture au verset 19. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est pas moi qui dis ça, lisez le texte. Dieu ne veut pas que nous fassions ce que nous voulons. C'est-à-dire au niveau adamique, au niveau de l'homme naturel. L'homme naturel, il doit mourir, faut mourir, la chair, avec ses passions et ses mauvais désirs. C'est ce que dit Paul. Alors, je ne veux pas que vous fassiez ce que vous voulez. Ce que je veux ne fait pas la gloire de Dieu. Apprenons à dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Jésus a dû prier cette prière à plus forte raison, les disciples. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Pourtant, Jacques Verneau, toi, homme de chair, tu ne peux pas faire et tu ne dois pas faire ce que tu veux, c'est-à-dire ce que ta chair veut, ce que ta volonté veut, tout doit être crucifié. Seigneur, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Des fois, c'est un chemin dur, je le sais, parce que j'ai prié cette prière combien de fois, et Dieu l'a exaucé. Et quand il l'a exaucé, j'ai trouvé que le chemin était dur. Mais après quelque temps, j'ai trouvé que c'était le meilleur des chemins. Dans un premier temps, c'est dur à la chair. Dans un premier temps, c'est dur. Mais après, nous voyons que c'est le meilleur parce que Dieu veut toujours le meilleur pour nous. L'amour selon l'homme, c'est l'égoïsme. C'est accomplir tous les désirs de la chair. en ne pensant qu'à soi-même, en ne pensant qu'à ses propres satisfactions, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est pourquoi un homme qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas né de l'esprit, ne peut manifester cette sorte d'amour impossible. Cet amour duquel nous parlons, cet amour répandu par l'esprit dans nos cœurs, il ne connaît pas cet amour, il ne connaît que l'amour humain égoïste, égocentrique. Et cet amour humain, c'est un amour destructeur. Écoutez tous ces gens qui disent « je t'aime » à ces femmes déjà mariées, ces femmes qui disent « je t'aime » à des hommes déjà mariés. N'est-ce pas un amour destructeur? Mais au verset 22, toujours de Galates, au verset 22, il est dit « mais le fruit de l'esprit ». Vous voyez, le fruit, ce n'est pas les fruits. Le fruit de l'esprit. Quel est le fruit de l'esprit? C'est l'amour avec ses composés. Tout à l'heure, vous aviez eu, n'est-ce pas, l'égoïsme avec tous ses composés. Toute une chaîne de, n'est-ce pas? Vous aviez ça. Maintenant, c'est le fruit de l'esprit avec ses composés. Même. C'est quoi? La joie. La joie, la vraie joie, ça sort de l'amour. La paix. Oui, l'amour engendre la paix, n'engendre jamais la guerre. La patience, la patience. Oui, la patience découle de l'amour, parce qu'on aime son prochain, alors on est patient envers lui. Même si c'est dur, mais on est patient, parce qu'il ne comprend pas. Eh bien, il n'est pas comme nous, il n'est pas notre arrière-plan, il n'a pas la même éducation, alors nous sommes patients. La bonté, c'est un fruit de l'amour. La bienveillance, c'est un fruit de l'amour. La fidélité, c'est un fruit de l'amour. La douceur, c'est un fruit de l'amour. La maîtrise de soi, tout cela, c'est un fruit de l'amour. L'amour, vous voyez, en tête de liste. Avant, c'était l'égoïsme en tête de liste. Maintenant, c'est l'amour qui est en tête de liste avec ses composés. Donc, on ne peut produire la sorte d'amour, l'amour de Dieu, désintéressé pour le bien de l'autre. Seulement, on ne peut le produire. Cet amour qui se sacrifie même pour les autres, on ne peut le produire, dis-je, sans l'esprit. C'est une marche par l'esprit. Quand on marche par l'esprit, on marche dans l'amour. Et cet esprit est l'esprit de Dieu. Donc, un esprit d'amour. L'amour divin n'est jamais tenu, ne s'est jamais tenu devant une cour de justice pour une affaire de divorce. Vous m'entendez? Lorsqu'on se tient devant une cour de justice pour divorcer avec sa femme, ça, ce n'est pas l'amour de Dieu qui est manifesté là, mais c'est l'égoïsme. C'est l'amour humain qui passe. C'est l'amour de soi qui passe. Et cela n'arrivera jamais à cet amour. Si tu es lié avec ta femme, tu es lié avec ta femme dans un amour qui a été suscité par la nouvelle naissance qui s'est manifestée en toi depuis le jour que tu as cru, tu as un amour qui ne va jamais se trouver devant la cour de justice pour un divorce. Tu as un amour durable, tu as un amour stable, tu as un amour juste, tu as un amour que tu exprimeras à ta femme et que tu exprimeras à ton mari sans fausse honte. Tu l'exprimeras, tu le diras, parce que c'est une vérité profonde qui ne dépend pas de l'aspect extérieur, mais qui dépend de cette beauté cachée là dans ton partenaire et que tu discernes parce qu'il est né de nouveau. Alléluia. Une sorte d'amour qui est de Dieu ne cherche pas ses avantages. Il est intéressé seulement en ce qu'il peut donner et non pas en ce qu'il peut prendre ou recevoir. Il ne dit pas « que puis-je en retirer pour mon propre bénéfice ?» L'amour humain est intéressé en soi-même. C'est tout. Et il ne va jamais loin, cet amour. Les chrétiens centrés sur eux-mêmes, les chrétiens, parce que malheureusement, il y en a beaucoup dans le christianisme, il y en a beaucoup dans l'Église qui n'ont pas encore atteint ce niveau d'amour. Les chrétiens centrés sur eux-mêmes sont faciles à repérer. Très faciles. Écoutez leur langage. Je. Moi. Il n'y a que ça qui les intéresse. Ils veulent toujours parler d'eux-mêmes, puis restent quand ils prient, c'est toujours eux-mêmes. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, moi. Et quand ils parlent aux autres, c'est toujours sur eux-mêmes. Ils sont très intéressés par eux-mêmes. Bien trop de chrétiens sont égoïstes. Ils laissent l'amour humain naturel les dominer. Et ils deviennent complètement égocentriques. Ce qui les intéresse, ce n'est qu'eux-mêmes. Ils s'aiment plus que tout. Au lieu de laisser l'amour de Dieu répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit s'exprimer. Non, c'est eux qui veulent s'exprimer. Cet amour ne les intéresse pas, l'amour de Dieu répandu dans les cœurs. Pourquoi? Car c'est d'abord l'autre. C'est d'abord l'autre. Ils sont intéressés seulement par eux-mêmes. L'amour humain divise les foyers. L'amour humain est instable. L'amour humain est changeable. L'amour humain est infidèle. Vous m'entendez? Combien d'ici peuvent dire, je sais qu'il est infidèle, j'étais marié, mais mon mari m'a abandonné, ma femme m'a abandonné. Infidèle, l'amour humain est égoïste, l'amour humain divise les foyers, divise même jusque dans l'église, car il cherche sa propre volonté, l'amour humain, il cherche sa propre gloire, l'amour humain, il cherche sa propre satisfaction, l'amour humain. L'amour humain est tolérant envers lui-même. Tolérant envers lui-même. Le mensonge pour lui n'est pas mensonge quand c'est lui qui fait le mensonge. C'est simplement une manière de se tirer d'affaire. L'amour humain, il est partial. Partial. Pour les autres, oui. Pour lui, non, c'est différent. La règle est différente. L'amour humain est malhonnête. On s'aime soi-même. Alors, pour soi-même, ce n'est pas malhonnête. C'est seulement malhonnête pour les autres de prendre ce qui ne nous appartient pas. L'amour humain est égoïste. Le résultat de tout cela, c'est la mort. Lisez avec moi, avant de terminer, quelque chose de très intéressant. Luc, chapitre 12, verset 15. Puis il leur dit cette parabole. Gardez-vous attentivement de toute stupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup à porter. Ça, c'est formidable. Les affaires marchent. On rentre de l'argent. Beaucoup plus qu'on avait pensé. On fait une affaire. Vraiment, c'est formidable. La situation est des plus positives. Le bénéfice monte. Fantastique. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Alors, immédiatement, on raisonne. Qu'est-ce que je vais faire avec tous les biens que j'acquiers maintenant? Il raisonnait en lui-même et disait, que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai mon blé. Mon blé est mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as bien, beaucoup de biens, en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Être riche pour Dieu, c'est quoi? C'est de manifester l'amour de Dieu. Cet homme, il se croit riche, mais il est très pauvre. Il est très pauvre. Il n'a pas joui de sa richesse. Avarice égale égoïsme. Cupidité égale égoïsme. Amour de soi, mépris des autres. Remarquez dans cette histoire tous les « je ». Je, moi. Insensé, lui dit le Seigneur, c'est lui-même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu es préparé, pour qui cela sera-t-il? Et de conclure, il en est ainsi de celui qui amasse les trésors pour lui-même et qui n'est pas riche selon Dieu. Écoutez encore ce que dit Esaïe, chapitre 5, verset 8. Malheur à qui ajoute maison à maison. Champ à champ. Malheur, dit Dieu. Ne sommes-nous pas dans cette circonstance ici, aujourd'hui, dans notre pays? Cet homme a beaucoup gagné. Est-ce de l'argent honnête? Cet homme a un gros compte en banque. Est-ce de l'argent honnête? Peu importe. Mais il amasse. Il amasse encore. Maison sur maison. Champ sur champ. Et même s'il a plein d'argent, il demande des garanties locatives outrageuses. 6 mois. 7 mois à l'avance, si au moins il faisait des maisons pour loger le pauvre, et lui demandait des loyers normaux, selon son gain, selon ses possibilités, là, il montrait de l'amour pour son prochain, mais ceci n'existe pas. On voit des pauvres baraques qui sont que des cabanes à lapins ou des poulaillers. et on demande des sommes exorbitantes pour le loyer, des 50, des 60, des 70 dollars, des 100 dollars, des 300 dollars, des 400 dollars, avec 6 mois de garantie à l'avance. Tu appelles la malédiction sur toi, ô homme, qui que tu sois. M'entends-tu? Cet homme cherche un logement désespérément. Son salaire est mince. Il a des enfants. Il a une femme. Et tu lui demandes des loyers outrageants. Et en plus cela, des garanties impossibles à payer. Où est ton amour pour ton prochain? Tu ne l'aimes pas? Non, tu le détestes. C'est toi que tu aimes. Donne-moi ton argent. Je vais remplir mon compte. Il y en a beaucoup déjà, mais j'en veux encore plus parce que je ne suis pas satisfait. Si tu meurs, si tu crèves, ça me pédale. Je veux ton bien. Voilà la mentalité de l'amour du monde d'aujourd'hui. L'égoïsme vous fait amasser pour vous-même, vous pousse à vous vanter et à jouir au détriment du pauvre. Cherchons plutôt à être riche pour Dieu. Par là, les valeurs demeurent. L'égoïsme ruine le monde. L'égoïsme ruine les mariages. L'égoïsme ruine l'Église. Et même beaucoup de pasteurs sont ruinés à cause de l'égoïsme qui remplit leur cœur. Mais l'amour de Dieu en nous est plus fort que tout et est une bénédiction pour les autres. Vous voulez être une bénédiction pour les autres, alors vous avez une maison. Calculez votre prix normalement, s'il vous plaît, si vous êtes un enfant de Dieu. Soyez une bénédiction pour ceux qui vous entourent, car il n'est pas, notre Dieu n'est pas égoïste, et son enfant n'est pas égoïste, mais il met toujours l'autre en premier. Si le vrai amour est dans nos cœurs, alors il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de crise économique, et il y a du travail pour tous. Pourquoi la crise dans le monde? Pourquoi le manque de travail? Pourquoi le pays en ruine? Pourquoi les routes défoncées? Pourquoi? À cause de l'égoïsme. À cause de l'égoïsme, nous voulons des familles unies. Nous voulons une société équilibrée. Nous voulons le bonheur pour tous, chacun à son niveau. Nous voulons la prospérité pour chacun. Nous voulons du travail pour chacun. Au milieu d'un pays riche, plein de diamants, plein d'or, d'une terre qui donne, non pas une seule récolte par an, mais plusieurs par an, où l'on ne manque pas, mais l'égoïsme est dans les cœurs. Les diamants, ils partent seulement dans une seule direction, dans deux, trois directions, et jamais l'homme de la rue ne peut en avoir un bénéfice, ne serait-ce que par de bonnes routes, ne serait-ce que par une bonne structure et des hôpitaux décents et propres. Même pas les écoles acceptables où le niveau est acceptable. Il n'y a même pas de bibliothèque pour ceux qui veulent faire des études supérieures, car tout est gaspillé, jeté aux ordures par l'égoïsme. On vole et on prend, l'autre prend, alors pourquoi ne prendrais-je pas? Et on élève une génération d'un niveau inférieur à cause de l'égoïsme, parce qu'on veut avoir sa maison quelque part dans le monde, on veut avoir sa vie facile, on veut avoir son avenir pour sa famille et les siens. Quant aux autres, qu'ils meurent, peu importe. Ne croyez-vous pas que la colère de Dieu viendra sur un monde de la sorte? La prospérité pour chacun est possible, surtout dans un pays tel que le nôtre. Cela est possible, mais bannissons l'égoïsme. Nous voulons une économie équilibrée. Bannissons l'égoïsme de nos cœurs. C'est la seule condition. Pensons aux autres plus qu'à nous-mêmes. Exerçons le pardon. Exerçons la miséricorde. Et je termine par ces deux passages de l'Écriture. Dans 1 Corinthiens 13, 5, l'amour ne cherche pas son intérêt. Et Philippiens chapitre 3, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Autrement dit, tu peux considérer tes intérêts afin de faire prospérer ta société, ton travail, tes affaires, mais ne considère pas seulement tes intérêts, mais considère les intérêts des autres. Frères, sœurs, Église de Jésus-Christ, apprends à aimer. Quand vas-tu aimer comme il aime? Le monde ne pourra changer si l'Église ne change pas.